Salut Ludo.
Bonjour Jacqueline, salut à tous.
Les bottes de foin, elles sont partout dans les champs en ce moment avec ce soleil, ce vent. Le temps est impeccable pour réussir son foin.
Exactement.
Les éleveurs sont-ils contents?
Non, mais ils l'ont été. Fallait me poser la question plus tôt, Jacqueline. Alors, il y a 15 jours, tout allait bien. Mais il est vrai que ça commence un peu à grimacer dans la campagne. À cause de la météo, bien sûr, et non pas juste pour râler ou assumer une réputation de ne jamais content.
Que se passe-t-il alors, Ludo? Fait-il trop beau pour vous? Parce que peu de gens vont s'en plaindre pour l'instant.
Oui, c'est vrai que...
Même si ça commence aussi.
Beaucoup de gens apprécient ce soleil ou même vont à la mer. Mais il y a une chose à retenir pour la météo agricole, c'est qu'une mauvaise météo est une météo qui dure. Et cela fait sens, hein. Du soleil brûlant pendant un mois, cela devient compliqué. Rien ne pousse, tout brûle, dessèche. De la pluie sans discontinuer, en revanche, et c'est impossible d'intervenir dans les champs. Impossible de récolter. Les semis sont noyés, les cultures vont s'atrophier. Trop de vent, trop longtemps, l'évaporation sera favorisée. Et c'est la perte d'eau du sol et des végétaux en surface. La terre voit alors son humidité diminuer de façon très rapide. La nature, comme l'agriculture, a besoin de cette intermittence de temps, de météo, pour s'équilibrer malgré les adaptations des pratiques et des systèmes au fil du temps. Pour rappel, il n'y a jamais eu aussi peu de maïs de semer.
En agriculture, une mauvaise météo est une météo qui dure, on l'a bien compris. Nous retiendrons cela, Ludo.
Merci.
Où en sont nos agriculteurs alors en ce moment avec ce vent?
Alors, les semis de printemps sont terminés, hein. Maïs et tournesol surtout. Il reste des semis de sorgho ou de betterave par exemple. Mais vous voyez peut-être aussi que la levée est compliquée, irrégulière ou avec des plantes assez peu dynamiques. L'humidité du sol se dérobe à vue d'œil. En cause, le soleil, mais aussi ce vent du nord, nord-nord-est. Vent qui sèche, mais vent froid également. Donc les deux réunis ralentissent la pousse des plantes. Ce n'est vraiment pas rassurant pour le moment. Ensuite, en ce qui concerne les récoltes, les foins, donc essentiellement semences, le temps est impeccable, hein, c'est vrai. Le foin sèche vite, sans trop d'efforts. Les quantités récoltées sont satisfaisantes grâce au printemps humide dans notre secteur. Donc c'est un bon point pour nous. Et les agriculteurs, eux, vont vite penser aux moissons désormais, avec ce soleil qui ne faiblit pas et qui fait mûrir les orges et les colzas. Alors ça ne fait pas tout ce soleil, Jacqueline, quand même.
Il y a encore un mais, Ludo, vous
toujours.
N'êtes jamais content, on le dit souvent.
Et oui, pas jamais content, hein, mais tu ne me le demandes pas au bon moment, en fait, c'est plus ça. On a beaucoup de vent.
On en revient au vent.
Nord-nord-est, hein, ce vent qui freine la pousse des végétaux, alors même chez vous, peut-être dans votre jardin. Alors, et pourquoi autant de vent, Jacqueline, cette année?
Je vous le demande.
À cause du vent des rameaux, sûrement. Mon grand-père, il serait là, il vous dirait que le vent des rameaux fait le vent des trois quarts de l'année. Le jour des rameaux, le 2 avril de cette année, le vent était nord-nord-est. Donc en plein dans le mille, ça correspond en ce moment du vent nord-nord-est. Et un autre dicton, Jacqueline, pour expliquer la crainte des éleveurs en ce moment, sur le foin, est-ce que tu en connais un?
Je vais te laisser encore m'en donner.
Ah, tu veux pas tenter ta chance, non?
Vas-y, attends, je réfléchis. Foin, je sais pas, donne-moi le début.
Année de foin, année de rien. Et là aussi, en plein dans le mille. Bonne année pour les récoltes en herbe, les foins sèchent facilement, mais ce qui implique que les plantes, elles, en ce moment, poussent difficilement. On craint donc le pire. Il faut que la météo change, ça serait bien.
Tu veux de la pluie donc, Ludo, même si on a eu beaucoup auparavant et que, j'ose pas te le répéter, mais les paysans ici s'en plaignaient. Les auditeurs ne seront sûrement pas d'accord, mais il en faut donc pour tout le monde.
Exactement. Et pour info, hein, y a quand même des restrictions sur le bassin du Touet pour les prélèvements qui ont lieu sur la Dive. Des restrictions aussi sont en place dans le sud de Sèvres, sur l'Homme Couture, donc autour de Chef-Bouton, Mellerand et Loubillé par exemple. Donc nous l'avons déjà expliqué, hein, nos nappes en Deux-Sèvres sont superficielles. Elles réagissent donc vite en cas de pluie, mais aussi en période de déficit hydrique. Le rapport du BRGM pointe clairement un impact bénéfique des pluies de mars et avril, on est d'accord, sur nos nappes, mais les niveaux sont en baisse ou au mieux stables depuis. Donc observez vos mares, par exemple, les réserves d'eau connectées au milieu, donc tout sauf des bassines, on est d'accord, les mares baissent toutes seules depuis presque un mois. Le sous-sol a besoin d'eau. Donc la question est, faut-il de l'eau pour avoir de la végétation ou pour avoir de l'eau, doit-on avoir de la végétation?
Ah voilà, qui de la poule et de l'œuf, etc.
Exactement, donc ça peut-être un peu compliqué, mais on peut au moins y réfléchir. Hein. La réponse n'est peut-être pas aussi évidente que ce que vous pensez. L'évapotranspiration, par exemple, de la forêt amazonienne contribue à ces fortes précipitations qui la rendent luxuriante. Réduire la couverture végétale, et notamment celle des feuillus, qui participent le plus à la restitution d'eau dans le milieu, mieux que les conifères par exemple, est un facteur aggravant au manque d'eau. Arracher les 20 000 km de haies comme la France l'a fait cette année, pour 3 000 km plantés, peut poser question. Les prairies se comportent mieux que les conifères également. Les vignes sont intéressantes aussi, avec une évapotranspiration du sol faible. Donc c'est le maïs irrigué qui présente le moins bon bilan avec plus d'eau consommée que restituée au milieu. Couvrir son sol, en fait, c'est limiter les fortes températures à sa surface et donc limiter l'évapotranspiration, comme le fait par exemple le paillage. Améliorer l'humus de son sol, sa teneur en carbone, c'est retenir plus d'eau. C'est la base. On sait aussi qu'un sol nu se réchauffe plus vite pour faire lever les semis. mais il se déshydrate plus vite aussi, avec une activité biologique, du coup, qui va diminuer. Donc rien n'est parfait, mais évitez de laisser votre sol nu au soleil si vous le pouvez. Avec du bon sens, en fait, il est assez facile de comprendre que le soleil est là pour la photosynthèse, pour être capté par les feuilles, qui, elles, protègent le sol en faisant de l'ombre. Donc voilà, en attendant l'eau du ciel, vous pouvez toujours réfléchir à votre sol. Et n'oubliez pas, c'est la première richesse de notre biodiversité.
Faut le dire et le répéter.
Exactement. Essentiel.
On va en profiter de Ludo pour saluer les agriculteurs du CIVAM qui fêtent leurs 30 ans.
Leurs 30 ans, le 16 juin, vendredi 16 juin.
Et samedi.
Alors, il y a quand même une super conférence qui s'annonce, vendredi 16 juin au soir.
Tout à fait, Ludo. On
sur
en reparlera.
La place de l'élevage dans nos systèmes.
Très tout à fait.
Et on a le podcast des Mégabassines quand même.
Ah, bah pardon, vas-y, Ludo.
On va pas ne faire notre pub
j'ai
aussi.
J'ai fait une
on
bonne annonce, excuse-moi. Mais... Donc ça y est, on l'a mis en ligne.
Exactement,
pour ne rien
si vous voulez
vous
intéresser aux Mégabassines, avec des éléments pour nourrir votre réflexion.
Voilà. C'est ça.
En ligne, dans la rubrique
le
par-dessus l'air.
Le podcast est en ligne, ouais, sur notre site www.colline-laradio.fr.
Et voilà, soyez curieux.
Par-dessus l'air. Merci, Ludo.
Bonne journée, ciao.